Et d'échanger. Dommage. Bonjour, cher ami. Et bonjour à tous les autres amis. Alors, soyez bénis. Sans doute votre journée a été bien occupée. Et je pense à notre cher ami qui vit sur un chantier, sur les grosses machines tout le temps, par tous les temps, et qui participe, qui est branché. Bien, je veux dire que j'étais après-midi avec le petit tracteur de papy, mon père, dans le champ, en train de travailler. Voilà. Pour prévoir, bien sûr, la nourriture de l'année, de cette année-ci, pour la famille, pour accueillir, pour partager avec les personnes de l'église, même avec d'autres. Et donc, il faisait bon. Il faisait 4-5 degrés et il faisait bon. Que Jésus vous bénisse. Je vais dire à notre Père, si vous voulez bien avec vous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, la communauté parfaite, que ce soit la grande église de Christ sur la terre depuis 2000 ans, ou une église locale, la communauté parfaite, bon, n'existe pas. Elle est parfaite au ciel. Lisez Romains, chapitre 4 et 5. Cette communauté parfaite nous attend. Et même elle nous rejoindra, elle viendra sur terre. Apocalypse 21, 20, 20, 21, 22. En attendant, la communauté imparfaite est la nôtre. Vivre avec l'imperfection est un bonheur du moment que Christ, le Seigneur parfait, est avec nous. Vivre dans l'imperfection entre frères et sœurs et vivre dans l'imperfection de ce monde, tant qu'on a le Seigneur Jésus dans le cœur, dans la vie, dans l'âme, qu'on est en communion avec lui, je trouve que tout va bien. On fait notre chemin dans l'imperfection, l'imperfection personnelle, l'imperfection des autres, des chrétiens comme des non-chrétiens. Et bien sûr, il y a deux tendances qu'il faut éviter. Lorsqu'on vit avec les autres et même avec soi-même quand on se regarde dans la glace, c'est de s'idéaliser ou idéaliser quelqu'un d'autre, c'est-à-dire le voir comme il n'est pas, ou de voir de le banaliser, c'est-à-dire le diminuer, le voir moins que ce qu'il est. Et donc, chers amis, il faut bien vous dire que deux tendances sont dangereuses dans nos comportements au niveau de nos rapports humains dans le monde, mais surtout dans les églises, dans les communautés locales, les communautés chrétiennes. Soit l'idéalisation, soit la banalisation. Banaliser, voir les autres avec un regard monotone, usé, les diminuant de leur valeur. Et on peut se banaliser soi-même aussi. C'est dangereux. Il faut voir les choses comme le Seigneur les voit. C'est cela l'essentiel. Les voir, et pour cela, il faut vraiment prendre le temps de prier et de lire la parole de Dieu. Il n'y a pas le choix. C'est lui qui rajeunit notre regard, qui ajuste notre regard, qui nous donne un vrai regard, plein d'amour et d'estime pour les autres, même quand ils sont imparfaits, et qui nous permet aussi de comprendre que nous sommes imparfaits nous-mêmes et ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, trop haute estime de nous-mêmes ou une trop basse. Accepter la réalité. Et nous allons prendre Romains chapitre 7, verset 14. Romains chapitre 7, verset 14. Romains chapitre 7, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, donc le commandement de Dieu, commandement divin. Mais je suis charnel, donc je suis humain, et je suis vendu au péché. Je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais, ce que je déteste. Donc nous connaissons une contradiction en nous, qui est assez difficile à supporter quand on aime vraiment aller vers la perfection avec le Seigneur Jésus. C'est une contradiction en nous qui est inhérente à notre nature. Et verset 16, « Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi de Dieu est bonne. » Verset 17, « Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, qui fait ce que je ne veux pas. » Ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Donc, cela veut dire qu'il y a comme un virus, comme dans un ordinateur quand il fonctionne mal, ou un ordinateur, un smartphone qui a été piraté, il y a quelque chose qui cloche, qui ne va plus. Eh bien, oui, il y a quelque chose qui cloche en nous et qui détraque nos pensées, nos attitudes, nos amours, notre amour pour Dieu même, et ça s'appelle le péché. C'est une force inhérente à la condition humaine dont nous serons complètement, complètement débarrassés lorsque nous serons face à face avec le Seigneur. Mais ce péché est condamné. Ce péché a été crucifié à la croix. Lorsque j'ai cru, que j'ai confessé ma faiblesse et mon péché à Christ, j'ai admis que ce péché, Jésus l'a porté sur la croix, il est mort pour moi à la croix. Ce péché était crucifié, donc il est destiné de toute manière à l'échec total. Et en moi, il n'a aucune victoire, même s'il y a des relents, des attaques, en moi, il n'a pas de victoire. Car la victoire est à Christ en moi, puisque Christ est ressuscité, je participe à la puissance de sa résurrection. Maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Verset 18, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans mon être humain. J'ai la volonté, mais non pas le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Certaines personnes diraient, mais vous, les chrétiens, vous êtes névrosés, vous êtes toujours en train de... Hein, et de vous imaginer des tas de trucs. Écoutez, la sagesse de Dieu a parlé dans cette parole. La sagesse de Dieu a parlé dans l'Écriture. Nous n'avons pas besoin d'écouter des critiques qui viendraient de la psychologie à ce niveau-là. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Donc il y a deux lois qui agissent en moi, la loi divine, la loi du Saint-Esprit, pour un chrétien. Pour un non-chrétien, c'est la loi des 10 commandements, la loi donnée à Moïse, la loi naturelle aussi, mise dans la conscience, qui fait distinguer le bien du mal. Hein. Mais pour le chrétien, la loi qui est dans le cœur, c'est vraiment le Saint-Esprit. C'est la présence de Dieu même qui est ma loi, qui est mon directeur. Et je suis attaché à cette loi du Saint-Esprit en moi, mais il y en a une autre qui est là, en face, et qui riposte, et c'est cette loi de l'opposition à Dieu, cette loi de l'indépendance, cette loi de la vanité, de l'orgueil, et de la présomption. Je trouve donc en moi cette loi, quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, donc l'homme intérieur, selon l'homme Christ qui est venu dans ma vie, Christ qui a renouvelé mon cœur, mon âme, qui est mort sur la croix pour moi et qui est ressuscité, qui m'a donné par sa résurrection puissance de vie sur et victoire sur la puissance de mort, sur la désobéissance. Eh bien, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres, donc dans ma nature humaine, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Il y a donc quelque chose en nous, bien sûr, d'inachevé, mais ce n'est pas une tension misérable. Ce n'est pas une catastrophe. Il faut savoir accepter ses limites et accepter ce chemin que nous devons faire sur la terre jusqu'au moment où Jésus, quand nous le verrons face à face, nous transformera complètement. Il nous donnera tous ses attributs, sauf sa divinité, bien sûr, ses attributs de sainteté, de beauté et de gloire. Alors, Paul dit au verset 24, misérable que je suis digne de misère. Qui me délivrera de ce corps de mort, de ce corps, de cette nature humaine qui veut toujours me pousser à me séparer de Dieu et à ne pas être en communion éternelle avec lui? Qui me délivrera de cela? Eh bien, bien sûr, après, au chapitre 8, vous avez le Saint-Esprit, vous avez toute une doctrine sur le choix de Dieu, sur le croyant, son appel et le don du Saint-Esprit. Et il est clair que cette réalité du Saint-Esprit, chers amis, est extrêmement importante pour nous. Extrêmement importante. Nous avons une réalité en nous, et j'aborde le chapitre 8 tout de suite, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc manifestée, mais elle est déjà donnée. Elle est assurée, elle est certaine. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Tout alentour de nous, les gens attendent que nous soyons devenus parfaits en Christ. Et ils ont besoin de voir quelque chose. Nous sommes un point de repère. Nous sommes devenus un point de repère. Et nous avons, bien sûr, une mission à accomplir, c'est celle de briller de la lumière de Christ. La création attend-elle un ardent désir la révélation des fils de Dieu? Car la création était soumise à vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, Adam, Ève, avec l'espérance qu'elle sera aussi affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté et la gloire des enfants de Dieu. Donc Paul dit ici que toute l'humanité tend, espère, recherche à, même si elle n'en a pas conscience, elle a besoin de la gloire des enfants de Dieu. Elle a besoin de participer à cette élection, à cette grâce de Christ, et à cette transformation totalement, cette nouvelle naissance, et à cette glorification un jour quand Jésus revient. Toute la création en a besoin. Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, comme un accouchement. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons déjà reçu les prémices de l'Esprit. On a reçu l'Esprit Saint en attendant la gloire totale, finale, complète, en présence du Père des cieux, des anges et des archanges. Nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre humanité. C'est en espérance, c'est-à-dire en certitude, en conviction spirituelle, que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Alors, le mot persévérance, bien sûr, en grec, a une connotation. Je traverse des difficultés, je traverse des épreuves, et je les surmonte, et elles me transforment, et je connais une transformation positive, une transformation faite par Dieu à travers les épreuves. Et je m'attache à l'épreuve autant qu'à la facilité, autant qu'au moment où tout va bien. je m'attache à l'épreuve comme un bénéfice pour moi et j'avance avec mon Seigneur et mon Maître. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Donc, vous voyez à quel point Paul indique bien que quand on devient chrétien, on fait l'expérience de la faiblesse. Et la faiblesse est la richesse. La richesse de Christ. La richesse du Saint-Esprit et la richesse de la parole de Dieu. Et donc, saisissons-nous de la richesse. Et j'en reviens au thème du départ, la communauté parfaite. Oui, les églises locales, autant que la grande église de Christ sur la terre n'est pas parfaite. Mais l'église a un maître parfait et l'œuvre du Saint-Esprit est parfaite. Il faut donc saisir l'œuvre divine qui nous est proposée par la foi. Il faut ni nous y donner. La perfection nous attend au ciel, de façon certaine, c'est sûr. Notre glorification future est certaine. Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21. Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21. Mais nous sommes citoyens des cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. N'oubliez pas ces versets, chers amis, frères et sœurs, Philippiens. C'est très consolant, c'est un bastion de la foi, des versets pareils. Philippiens, chapitre 3, versets 20 et 21. Notre glorification est certaine, elle est certaine et elle est assurée, car Jésus-Christ est Dieu. Toute l'œuvre de Dieu est parfaite et certaine. Nous nous appuyons sur un Dieu vrai et puissant. Nous faisons l'expérience de la faiblesse pour le moment. Notre liberté, c'est d'accepter les choses limitées que nous vivons. Notre liberté, c'est d'accepter la nature imparfaite que nous avons. Et, humblement, nous attendons sur terre l'œuvre du Saint-Esprit, l'effet de sa parole en la lisant, en la méditant, en cherchant à la mettre en pratique. Nous cherchons la perfection qui se dégage peu à peu, sans que nous le voyons, par l'œuvre du Saint-Esprit. Et d'autre part, nous avons une liberté d'accepter les choses limitées, sans se faire une névrose, sans se culpabiliser, sans se défavoriser aux yeux de Dieu. Romains 8, 1, il n'y a point de condamnation, de culpabilité, de culpabilisation en Christ, pour celui qui croit en Christ. Romains 8, 1. Nous disposons donc d'une grande liberté, bien que nous connaissons des grandes imperfections. Nous disposons d'une grande confiance dans l'œuvre de Christ en nous. Et nous ne regardons pas nous-mêmes. Nous regardons au maître de l'ouvrage, au divin potier, qui tient dans ses mains l'argile et qui la façonne. Et nous sommes le vase qui va en sortir, qui sera excellent, un vase plein de grâce et de beauté. Si aujourd'hui nos désirs de perfection sont frustrés, c'est parfois normal, mais il ne faut pas rester là-dessus. Il faut toujours déposer cette frustration au Seigneur en disant « Seigneur, je n'écoute plus ça, je sais que je suis limité, mais j'ai tellement d'amour pour toi, Seigneur, je sais que tu répondras. Tu as tellement d'amour pour moi, Seigneur. Tu me feras grandir dans l'amour que tu as déposé en moi. L'agapé, l'amour que tu as déposé en moi pour toi, va toujours grandir. Et moi, j'accepte de mon plein cœur. Je fais de toi ma prédilection. Je fais le choix d'un mariage, d'une grande connivence, une grande complicité spirituelle avec toi, Seigneur. Et mon bonheur est cette complicité. Mon bonheur est cette amitié avec toi, Seigneur. Jean 15, 15. Vous n'êtes plus mes serviteurs. Vous êtes mes amis. Vous connaissez tout ce que je vous ai dit et ce que vous devez faire. Jean 15, verset 15. La perfection chez l'autre chrétien, qui est assis à droite et à gauche dans l'Église, ou devant ou derrière, n'existe pas chez le chrétien, mais elle existe dans le Saint-Esprit qui est dans ce chrétien. La perfection est dans le Saint-Esprit qui a été donné à ce frère et à cette sœur dans l'Église. Et j'admire et je crois dans la compétence du Saint-Esprit pour en transformer mon frère et ma sœur. Et je ne m'oppose pas par des jugements, par des quolibets, des cancaneries, ou des rejets, ou des mépris, ou des paroles amères. Je fais confiance à l'œuvre de Dieu qui est entreprise pour l'éternité chez le frère et la sœur qui sont dans l'Église avec moi. Nous sommes réalistes sur nos rapports avec les autres dans une assemblée locale, dans l'Église, mais nous sommes réalistes sur la grandeur et la puissance de Dieu qui achèvera tout. Il achèvera tout ce qu'il a commencé en nous. L'Église un jour sera glorieuse, mais pour l'instant, elle ne l'est pas encore. L'Église sera glorieuse. Premier épître de Pierre, chapitre 2. Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, donc acheté par le sang de Jésus, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Premier aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 19. Quelle est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Vous vous rendez compte de ce que Paul dit là? 1 aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 19. Je pense, chers amis, qu'il faut être dans des sentiments pareils envers les autres dans une assemblée. Il faut avoir un regard spirituel. Il faut avoir un courrier avec des chrétiens, écrire un courrier spirituel. Il faut sur le smartphone, le téléphone, avoir un courrier spirituel. Il faut, quand on dort, avoir des pensées spirituelles à l'égard des autres chrétiens. Et ces pensées spirituelles, j'en avais un témoignage formidable là, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 19 et 20. Quelle est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. C'est vraiment formidable, épatant. C'est pour ça que souvent dans les courriers par smartphone ou dans les courriers par écrit, je dis « Je vous aime de l'amour de Jésus » de plus en plus. Parce que je trouve que le Seigneur, je l'ai souvent pensé, mais je ne sais plus m'empêcher de le dire maintenant. Je sors de ma timidité. Sortez de votre timidité, chers amis. Sortez de votre retenue. Osez dire aux autres votre joie de les savoir enfants de Dieu, votre joie de savoir qu'ils seront dans la perfection divine, qu'ils seront complètement, complètement dans la gloire de Christ. Sortez de votre réserve et mais lancez des fleurs d'amour à vos amis, à vos frères et sœurs. Et dans la prière, il faut exalter le Seigneur, il faut remercier le Seigneur de ce qu'il fait dans la vie des frères et des sœurs. même si on ne le voit pas, même si nous on est trop aveugle, même si on a été éduqué à être méfiant, ou trop critique, ou qu'on a été déçu, qu'on a été amer. N'écoutons pas tout cela, chers amis. Cela, c'est la chair. Écoutons le Saint-Esprit qui est amour. Alors, pour l'instant, l'Église n'est pas glorieuse, elle ne l'est pas encore, elle est en chemin, et c'est un chemin sûr, victorieux. 1 Timothée, chapitre 5, verset 20. Première à Timothée, chapitre 5, verset 20. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Voilà. Ceux qui pêchent, c'est-à-dire qui commettent régulièrement des choses qui portent atteinte à l'honneur de Dieu, à l'honneur de Christ, de l'Évangile. Il faut, en Église, parfois, avec amour, humilité, laver son linge sale, et il ne faut pas laisser l'Église se pourrir, se dégrader, parce que on laisse faire n'importe quoi. Ça ne me regarde pas, bon, c'est son problème, bof. Et vous savez, à ce train-là, une Église, c'est plus rien du tout. Ça va vite, ça dégringole. Si réellement vous aimez l'épouse de Christ qui est l'Église, vous aimez Christ, vous devez aimer son épouse. Son épouse, c'est l'Église. C'est pas seulement une question de sentiment humain, c'est une question qu'on respecte l'épouse de Christ. Donc on tient à ce que l'épouse grandisse dans la beauté, dans la perfection de Christ, qu'elle soit lavée par la parole de Dieu régulièrement. Donc il peut arriver qu'avec amour, il faut pouvoir se dire les choses en vérité. Sans agressivité, sans animalité, sans énervement, évidemment. Ceux qui pêchent, 1 Timothée 5, verset 20, reprends-les devant tous, c'est-à-dire en communion fraternelle dans une église, pas devant 200 personnes, mais à 3, 4, 5, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Alors, il est certain qu'à un moment donné, c'est pas une question de franchise, d'avoir un caractère de butor et de dire n'importe quoi aux frères et aux sœurs. Mais il est certain qu'à un moment donné, nous sommes lâches et traîtres si nous ne disons rien, nous laissons faire les choses et que tout se dégrade. Donc, il ne faut pas se plaindre que l'Église soit imparfaite. Si on n'a pas eu le courage d'être droit, et de oser affronter un peu la difficulté dans les relations, oser déplaire, oser plaire à Dieu, mais oser déplaire, parfois, momentanément, peut-être pour 5 minutes, peut-être pour un quart d'heure, peut-être pour une journée. Je me rappelais que un jour, en sortant du culte, j'avais une camionnette de 9 personnes, les gens que j'avais, les enfants, puis je prenais un couple ou deux, et je me rappelle qu'il y avait toujours, dans la camionnette, une épouse qui se moquait de son mari, et qui parfois lui rétorquait n'importe quoi. Et lui ne répondait pas. Mais ça se faisait plusieurs fois, ça se faisait devant, ma femme ne disait rien, elle attendait que je réagisse, et mes enfants, ils disent, si c'est ça l'Église, c'est pas marrant. Et donc, une fois, j'ai arrêté la voiture sur un parking et j'ai dit, on ne bouge plus ici. Comment ça qu'on ne bouge plus? Alors, la personne qui avait jeté du venin à son mari, elle dit, mais elle était subjuguée. Oui, je voudrais bien que tu demandes pardon à ton mari et à tout le monde ici pour ce que tu fais. Ce n'est pas digne en sortant du culte de faire ça. Ce n'est pas digne. Ou alors, la fois prochaine, ne viens plus au culte. Réfléchis pendant 2-3 dimanches, ne viens pas, mais ce n'est pas digne. Respecte ton mari, tu vois bien qu'il t'aime. Regarde nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont penser de tout ça? C'est l'Église de Christ. Ou c'est un torchon souillé. Alors, bien sûr, cette personne a changé, elle se reprenait, c'était son caractère comme ça, et pendant 5-6 mois, ça allait. Et puis tout d'un coup, dans une étude biblique, elle rebombardait de son mari. Alors, je m'arrêtais de nouveau. Je dis, écoute, moi, pendant 2-3 semaines, je ne viens pas faire étude biblique chez vous. Il y en a marre. Il faut pas se plaire dans le péché. Tu ne peux pas porter atteinte. Il fait tout pour toi. Il fait tout pour toi. Tu ne le vois pas? Tu exiges tellement de choses et il le fait. Tu crois qu'il y a beaucoup de femmes qui ont un homme comme ça? Elle était en colère. Elle m'expédiait. J'achevais ma réunion, puis je ne venais pas dans 3 semaines. Et puis elle téléphonait en disant, allez, Jean, je te supplie, reviens, reviens. Pourquoi? Je n'aimais pas faire ça, mais il fallait le faire. Donc, chers amis, parfois, il faut oser déplaire. Il faut oser, dans l'amour, dire, ça ne va pas. Je ne veux pas être complice. Je ne laisserai pas l'Église, l'Assemblée, être souillée par des attitudes pareilles indéfiniment. Je ne vais pas cautionner par mon silence. Vous savez bien le proverbe, qui se tait consent. Donc, une assemblée locale progresse par la vérité. Mais bien sûr, je n'ai jamais eu d'animosité. J'ai toujours continué à faire les réunions bibliques chez cette personne. Et l'imperfection, si elle n'existe pas chez le frère et la sœur en face de moi, quand je me regarde dans la glace, c'est la même chose. Je sais très bien qu'elle n'existe pas. C'est moi. J'attendrai toujours le possible. J'attendrai toujours l'œuvre de Dieu. Le possible est en Christ, pas en moi. J'encouragerai les autres et les autres m'encourageront. Christ m'encouragera. Christ ne me découragera pas. Il m'aime. Il vous aime. L'Église sera glorieuse parce que c'est l'amour de Christ le moteur de l'Église. C'est l'amour de Christ, le moteur de nos vies. Pour l'instant, nous avançons, petitement, à petits pas, humblement, mais nous pouvons aussi marcher avec joie, avec confiance, dans ce bonheur d'être chrétien. Quel privilège d'avoir donné sa vie à Jésus. Quel privilège de savoir que Jésus est plein d'amour pour moi et qu'il me réserve une place royale dans le ciel. Personne ne sera un ver de terre, une crotte. Personne ne sera un porc réincarné. Personne ne sera une vache réincarnée. Tout le monde sera une œuvre parfaite en Christ. Matthieu 18. Verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Si par votre amour, votre franchise, votre honnêteté, votre droiture, vous faites en sorte que les personnes soient vraiment autour de vous, soient vraiment unies à Christ, il y a un lien qui se dégage, un lien d'amour, un lien de foi qui s'établit dans tout l'entourage, eh bien, c'est clair. C'est lié pour le ciel, tout cela. Et vous aurez des couronnes de gloire sur la tête. Vous aurez des bénédictions, la reconnaissance de Dieu. Si vous déliez sur la terre, c'est-à-dire vous laissez tout faire, chacun son... Ça commence par M. Après moi, les mouches. Je vais au culte, je m'assieds et puis je retourne. Bof, il n'y a rien à tirer de cela, mais j'y vais quand même. Vous savez que parfois, j'ai vu ça dans des communautés paroissiales catholiques. Il y a des gens, ils n'aiment pas Dieu, ils vont à la messe. Mais je parle pour les protestants aussi, hein. Et ça peut arriver chez les évangéliques. Mais je parle, j'ai vu ça. Ils n'aiment pas Dieu, ils n'aiment rien de Jésus, mais ils sont là. Et vous savez pourquoi? Par opposition à d'autres dans la société, pour dire, vous voyez, nous, on n'est pas comme vous. Et il se fait un bloc idéologique, un bloc identitaire, par rapport à des autres avec lesquels on ne veut pas être. Et toutes les religions entretiennent ça. Toutes les religions entretiennent ce genre de poison qui dure depuis des siècles. Mais nous, chrétiens, si nous avons vraiment reçu Jésus-Christ dans notre vie, ce poison, il est crucifié. Nous n'allons pas dans l'église, nous n'allons pas au culte pour être différents des autres dans la société, d'une telle autre religion, de telle autre. Des athées, etc., pour se donner une bonne image de soi suffisante pour m'enorgueillir. Tout ça, c'est dégradant au possible. Ça fait partie du mensonge que Jésus ne veut pas. Et donc, si dans la communauté, vous laissez tout le monde dans l'état qu'il est, vous ne travaillez pas par la prière, l'adoration, l'intercession, le jeûne, et par une relation honnête, loyale et fidèle avec les autres. Fidèle, mais parfois franche, quand elle est nécessaire. Si vous ne le faites pas cela, vous laissez tout en déliquescence. Tout va à volo. Et puis on a des églises comme Laodicée, et Jésus est derrière la porte. Ou l'église de Sarthe, il n'y en a plus qu'un ou deux ou trois qui vivent spirituellement, tout le reste c'est déjà. Ou Éphèse, plus personne n'aime Christ. Nous ne pouvons pas en arriver là. Nous ne pouvons pas laisser tout en déliquescence. Nous devons avoir le courage d'aimer, la force d'aimer. Et pour cela, il faut avoir une vie intérieure spirituelle. Nous sommes donc responsables, chers amis, tous ensemble, du chemin qui va vers la perfection, du chemin communautaire, du chemin de l'église locale qui va vers la perfection. Et on ne peut pas se débiner, on sera devant Jésus lorsqu'il reviendra, responsable de tout ce qu'on a fait et qu'on n'a pas fait. Dans ce sens-là, l'église est notre vocation. La communauté locale est notre vocation. Pour éprouver nos véritables sentiments envers les autres, pour éprouver notre véritable courage, notre véritable adhésion à Jésus-Christ, et pour la vivre. Quelle est l'attitude du chrétien concernant lui-même? Philippiens chapitre 3, verset 12. Philippiens chapitre 3, verset 12. Quelle est l'attitude du chrétien concernant lui-même? Qu'est-ce qu'il doit penser de lui-même? Philippiens chapitre 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, vous voyez donc, hein? Je suis pas encore arrivé à cette perfection, à cette plénitude, hein, divine, Christ, en Christ, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours, donc je m'engage, je m'entraîne, je fais les efforts, je cours pour tâcher de le saisir, de saisir le prix de la perfection, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Le véritable fondement de l'engagement, c'est que Jésus m'a pris dans sa main. Il m'a aimé. J'ai expérimenté. Je sais qu'il m'aime. Mon Seigneur Jésus, tu es mon maître, tu es mon ami, tu es mon berger, tu es mon confident, tu es mon rocher, tu es ma haute forteresse, tu es ma retraite. Seigneur Jésus, où irai-je sans toi? Où irai-je? Tu as les paroles de la vie éternelle. Où irai-je? Personne ne m'a aimé autant que toi pour mourir sur la croix pour mes péchés. Personne ne peut m'aimer autant que toi puisque tu es ressuscité et tu es au ciel. Tu intercèdes auprès de Dieu, de notre Père, sur le trône de grâce, pour moi, pour les autres. Personne n'est aussi riche que toi, Seigneur Jésus. Donc, Seigneur Jésus, je suis saisi de ton amour. Je t'appartiens entièrement. J'ai été saisi par Jésus-Christ. Donc, l'attitude du chrétien, je relis ce verset. Philippiens 3, 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et boum, ça c'est beau. Alléluia. Prenons Romains 7, verset 17. Romains 7, verset 17. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'étais au chapitre 8, verset 17. Excusez-moi. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc, mon attitude concernant moi-même, c'est de arriver à porter ma croix, mon chemin, et parfois c'est bien lourd, certaines années, certains mois, à d'autres moments c'est léger. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Venez, Jésus l'a dit, venez à moi, vous qui ployez sous le fardeau, déposez-le-moi, car je suis doux et humble de cœur. C'est dans cette relation paisible du cœur à cœur avec Jésus, que le fardeau nous est plus léger. L'épreuve n'est pas partie, mais nous la vivons de manière plus paisible, plus joyeuse, et nous avons en nous une force qu'on n'explique pas, mais qui vient du ciel. Nous ne basons pas notre force spirituelle sur des regrets, sur des repentances continuelles, sur des culpabilités. Nous ne reposons pas notre force spirituelle. La source est dans la bonne relation d'amour paisible avec le Seigneur Jésus. L'attitude du chrétien vis-à-vis des autres chrétiens, c'est ceci. Nous accueillons chaque chrétien lorsque nous le voyons à l'entrée du culte ou à la sortie, ou quand nous allons en visite chez lui, ou qu'il vient chez nous, ou quand nous lui téléphonons, nous accueillons chaque chrétien parce que nous avons un état commun à nous tous. Nous sommes des pécheurs graciés en Jésus-Christ. Graciés, pardonnés, gratuitement. Nous n'avons de valeur que par la grâce reçue. Donc on ne peut pas se prévaloir de quelque chose. Notre direction est donc la simplicité de cœur. La simplicité permet le cheminement de la sainteté. L'attitude du chrétien dans sa solitude, c'est de confesser ses péchés à Dieu, mais c'est de savoir qu'il est aimé, et de ne pas s'apitoyer sur soi-même. L'attitude du chrétien, c'est parfois savoir reconnaître aussi qu'on a offensé quelqu'un dans l'église, ou un chrétien d'une autre église, et confesser son péché, aller lui demander pardon. L'attitude du chrétien, parfois, c'est de dire, mais il faudrait qu'on se réunisse tous, qu'on prie, qu'on jeûne, un jour, deux jours, trois jours, afin que la vie ecclésiale soit purifiée. Que la vie ecclésiale soit purifiée. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Corinthiens chapitre 4 verset 7. Car qui est-ce qui te distingue des autres? Qu'as-tu reçu de plus que les autres? Que tu n'aies reçu? Le pardon de Dieu, évidemment. Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Si tu as reçu le pardon de Christ à la croix, pourquoi t'en glorifies-tu? C'est un cadeau gratuit à cause de Jésus. Comme si tu ne l'avais pas reçu. Pourquoi te comportes-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Ou pourquoi te comportes-tu comme si l'autre dans l'Église ne avait pas reçu ce cadeau de la grâce, du pardon de ses péchés? Pourquoi l'accables-tu? Il faut pouvoir vivre une purification en Église pour que nos cœurs soient simples. L'Église, c'est la communauté des pardonnés, mais c'est la communauté de ceux qui se pardonnent aussi. C'est la communauté des pardonnants. C'est l'Église où Christ, où Dieu agit pour que nous pardonnions 7 fois, 77 fois. Et il n'y a pas de doute, une Église où on ne se pardonne rien est déjà morte. Ou en tout cas, dans quelques heures ou quelques jours, elle y est. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, donc souffrir avec les autres, pouvoir se mettre à leur place et comprendre, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Ah oui. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, en action donc, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Oh là! Fantastique, l'Église de Jésus-Christ. Chers amis, c'est possible. C'est très possible. Il faut que chacun de nous dans l'Église n'écoute pas son péché. En tout cas, sache bien qu'il doit donner un bon coup de talon dessus quand il se rebiffe. Alors, dans les Églises, nous avons évidemment un problème. Je lis Jérémie avec vous, Jérémie chapitre 3, verset 14. Au-delà de tout ce que je viens de dire, allons un peu plus loin. Jérémie, chapitre 3, verset 14. Oh, c'est un problème qui peut être résolu, hein. Pas un problème incommensurable. Enfin, il peut l'apparaître actuellement dans beaucoup d'églises. Jérémie chapitre 3 verset 14. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, je vous ramènerai dans Sion. Verset 15, alors là c'est important. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Le verset 15 est très important. Je pense que Dieu donne des bergers à une communauté locale, un berger, ou deux, ou trois, si c'est une église qui grossit, hein, selon le cœur de Dieu. Dieu le donne à cette assemblée-là. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ils vous paîtront avec intelligence et sagesse. Il y a réellement, de la part des communautés, où il y a une vie profonde, spirituelle profonde, Dieu fait le don de serviteurs qui vont agir avec intelligence et avec sagesse. Mais pourquoi irait-il pourrir un serviteur là où il n'y a pas le cœur de Christ dans chacun des membres? Je vous lis ce verset. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Je voudrais dire ceci, chers amis, c'est que Dieu est grand. Dieu connaît la situation de toutes les églises. Et il tient à faire progresser ceux qui veulent progresser. Il tient à faire vivre de Saint-Esprit et de la grâce divine, ceux qui se saisissent de l'amour de Christ. Mais pour ceux qui rejettent l'amour de Christ, pourquoi y aurait-il un serviteur pour qu'il y perde son temps et sa vie, sa santé, peut-être son âme? Dieu est pasteur de toutes les églises. Jésus-Christ est pasteur et berger de toutes les églises. Il peut donner un pasteur à une assemblée. Et il faut que l'assemblée sache le prix qu'il y a à payer pour que Dieu donne un serviteur qui agisse avec intelligence et sagesse. Jérémie chapitre 3, verset 15. « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. » Jérémie chapitre 9, verset 23. Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir de l'Éternel. Donc, Jérémie chapitre 9, versets 23 à 24. Nous avons la clé pour voir ce que Dieu exige de nos assemblées et de chacun de nous. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. C'est fondamental. C'est tellement fondamental qu'on passe souvent à côté. Je prends un chapitre 10, verset 8. Jérémie, chapitre 10, verset 8. « Tous ensemble, ils sont stupides et insensés. Leur science n'est que vanité, c'est du bois. On apporte de Tarsis, donc de l'Espagne, des lames d'argent, du faz, de l'or, du faz, c'est le sud Yémen. L'ouvrier et la main de l'orfèvre les mettent en œuvre. Les vêtements de ces dieux sont d'étoffes teintes, en bleu, en pourpre, tous sont l'ouvrage d'habiles artisans. Bon, on pourrait dire que dans les églises évangéliques, on n'a pas de statues, on n'a pas tout ça. Mais attention quand on a des beaux bâtiments. Attention quand on a des beaux parkings. Attention quand sur les parkings, on a des belles voitures. Ça revient au même. Il faut faire attention. Faire attention. Lisez Jérémie chapitre 10, verset 8. Tous ensemble, ils sont stupides et insensés. Leur science n'est que vanité, c'est du bois. Soyons prudents avec nous-mêmes et sachons voir les choses comme Dieu le veut. Verset 10, l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. Verset 10, l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. Voilà ce que je voudrais dire. Pour un chrétien, il ne doit jamais oublier cela. Jamais. Dans une église, parfois, on peut être peu nombreux, pas nombreux, aimer le Seigneur, vivre les choses en profondeur, et puis se dire, mais pourquoi est-ce que Dieu n'envoie pas des autres chrétiens? Pourquoi est-ce que Dieu n'envoie pas un pasteur? Pourquoi est-ce que Dieu n'envoie pas encore des âmes et tout ça, etc., qu'on devienne une plus grosse église et tout? Bon, c'est notre cas, mais il y en a beaucoup d'autres. Dans le monde, il y en a beaucoup. Mais il faut savoir que parfois, là, il y a beaucoup de monde, il y a un petit proverbe que je vais vous dire qui peut déranger. Là où on jette le grain, les poules se réunissent. Là où on jette le grain, les poules se réunissent. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Là où il y a de l'intérêt, où les gens voient un intérêt à venir, ils y courent. Mais c'est peut-être pas pour Dieu, pour Jésus-Christ, pour la parole. Il faut faire attention, les amis. Toute idée du succès est dangereuse. Retenez bien ce verset. Là où on jette le grain, les poules se réunissent. Donc, faisons gaffe, nos églises ne sont pas des poulaillers dans lesquels on jette du grain. Chers amis, ce que je souhaite du fond de mon cœur, c'est que cette année-ci, nous prenions le temps de jeûner et de prier, souvent. Les dirigeants de ce monde prennent des décisions qui sont souvent scandaleuse, et beaucoup de choses nous sont cachées. Il faut avoir un discernement spirituel. Il faut que ce discernement spirituel s'amplifie, augmente, se fortifie. Prenez le temps de prier et de jeûner cette année-ci. S'il vous plaît, n'attendez pas le 31 décembre. Mettez-vous-y tout de suite. Prenez du temps dans la parole de Dieu. Mettez-vous-y tout de suite. Le Seigneur n'est pas loin, mais le diable agit fort. Agit fort. Eh bien, soyons forts en Christ. Soyons forts spirituellement. Même si nous sommes dispersés un peu partout, nous pouvons être forts en Christ et unis par le Saint-Esprit, par celui qui est le plus puissant au monde et qui n'est pas l'esprit du malin. Jésus l'a dit à la Samaritaine, le temps est venu où nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Que nos églises, que nos communautés, que notre chambre soient des lieux où on aime Dieu en esprit et en vérité. À vendredi, gloire à Dieu. Je vous aime, Jésus vous aime surtout. Alléluia.